rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission du rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne. En cette rentrée, nous allons vous présenter nos principaux coups de cœur parmi nos dernières lectures. Aurore a choisi les carnets de l'apothicaire et le secret de l'ancien vœu. Amy recommande The Doctor of Dr. Moreau de Sylvia Moreno-Garcia et The Rose Code de Kate Quinn. Anne vous présentera les romans La Famille de Naomi Krupiski, Crépuscule de Philippe Claudel et Les Mauvaises Épouses de Zoé Crisby. Commençons tout de suite avec Aurore pour le manga Les Carnets de l'Apothicaire.
Eh bien, bonjour à tous. Sachez déjà que moi, je ne suis pas très manga. Mais en vrai, je crois que je vais le devenir. J'ai découvert cette saga grâce aux lecteurs de la bibliothèque, à vrai dire. J'ai remarqué que les tomes des Carnets de l'Apothicaire sortaient très souvent. Alors déjà, le titre me plaisait. Et ensuite, j'ai appris que cette saga manga était aussi issue de romans du même nom. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas commencer? Si jamais ça ne me plaît pas ou que je n'arrive pas à lire à l'envers, manga exige, eh bien tant pis. Les Carnets de l'Apothicaire, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a été enlevée alors qu'elle travaillait dans le quartier des plaisirs de Pékin et qui s'est brutalement retrouvée à travailler comme servante dans la cité interdite auprès de concubines de l'empereur. Rien qu'en vous disant cela, est-ce que vous imaginez le décor? La cité interdite au temps de son apogée. À ce moment-là, personnellement, j'étais déjà conquise. Mao Mao, la jeune femme que nous suivons, est un personnage attachant, drôle, décalé par rapport aux autres femmes qui peuplent le monde impitoyable de la cour intérieure. Elle n'a aucune ambition personnelle, si ce n'est de ne pas croupir ici. Elle est simplement douée dans un domaine, les plantes et les poisons. Elle résout alors malgré elle des énigmes et des complots qui la dépassent complètement, et elle prend de l'assurance et du grade au sein de cette cour intérieure. On la voit évoluer, réfléchir, manigancer même parfois, mais toujours pour servir des intérêts supérieurs. On découvre à travers ses yeux naïfs le fonctionnement de la cité interdite à l'époque et aussi le fonctionnement des mœurs de l'époque. C'est un voyage à travers le temps et l'espace bien agréable que nous propose Mao Mao. Pour ce qui est de la lecture de manga, c'est-à-dire dans le sens inverse d'une BD francophone, c'est un coup à prendre, mais la logique est facile à suivre et la disposition des cases dans cette saga n'offre aucun piège. J'ai été même surprise de voir avec quelle facilité, en fait, je pouvais dévorer chaque tome. Les Carnets de l'Apothicaire, la saga manga, donc c'est disponible à la bibliothèque Mourichon et je ne peux que vous la recommander. Je vais laisser la parole à Amy qui va nous parler de The Daughter of Dr. Moreau.
Alors bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler donc de ce roman en anglais que j'ai commandé il y a très peu de temps et qui va vous plonger dans un univers à mi-chemin entre une atmosphère proche d'Halloween qui va arriver dans pas longtemps et en même temps dans une sorte d'essai scientifique. Et donc c'est en français La fille du docteur Moreau de Sylvia Moreno-Garcia, qui est romancière mexicano-canadienne de fantasy, science-fiction et horreur. Et le début du roman, c'est véritablement une adaptation clairement inspirée du roman L'île du docteur Moreau de l'auteur britannique H.G. Wells. D'ailleurs, le docteur Moreau est bien le même personnage dans les deux romans. Et je ne peux pas vous parler de ce roman sans bien sûr vous restituer en quelques phrases le décor planté par l'auteur classique, puisque c'est l'histoire d'un naufragé qui est repêché en pleine mer. Alors il est sauvé in extremis par un bateau qui passait, semble-t-il, par hasard. Sauf que l'équipage ne se révèle finalement pas très sympathique et très vite le capitaine, qui n'est pas un personnage très accueillant, va tout faire pour que le naufragé Edward Prendrick ne reste pas à bord. Alors il est recueilli sur une île tropicale par un savant fou avec l'aide de son assistant Montgomery. Et c'est là que notre Edward va chercher à quitter cette île, mais non sans difficulté, puisque le docteur Moreau y mène des expériences assez sombres sur place. Alors ça a été plusieurs fois porté à l'écran. Alors, il y a celle qui a été tournée en 1995 par John Frankenheimer avec Marlon Brando dans le rôle titre. Et le récit ici se voit à présent réinventé par la plume talentueuse de Sylvia Moreno-Garcia. Elle ne change rien à l'époque, puisque nous sommes toujours au 19e siècle, mais elle déplace le laboratoire de Moreau dans la péninsule du Yucatan. Et le récit débute alors que le docteur embauche Montgomery. Et dans le roman de Silvia Moreno-Garcia, Carlota, donc, qui est donc, la fille du docteur Moreau, justement, eh bien, il va y avoir l'histoire qui va tourner donc, autour de ce personnage principal. Et que ce soit dans le roman d'H.G. Wells et celui que je vous présente, l'île est en effet peuplée d'êtres hybrides entre l'homme et l'animal qui servent le docteur Moreau comme si ce dernier était leur maître ou leur dieu. Alors si je devais résumer en quelques mots ce roman, je le qualifierais de fiction gothique mexicaine, très immersive, avant-gardiste sur le plan scientifique, tout en pointant bien évidemment les dangers du scientisme, et plutôt féministe, puisqu'il s'oppose aux figures masculines présentes dans le roman d'H.G. Wells, tout en développant la figure féminine de Carlota face à Montgomery. En tout cas, je vous invite à découvrir ou à redécouvrir cette traversée exotique à tout point de vue. Et encore plus, si comme moi, vous avez redécouvert ce classique après avoir vu le film Les Gardiens de la Galaxie de James Gunn.
Chouette. Alors moi, je vais vous présenter un roman américain, La Famille, de Naomi Krupinski. C'est un premier roman épatant sur la mafia, mais la mafia vue par les femmes. On est en 1930 à Brooklyn. On suit deux filles d'origine italienne, dont les pères respectifs travaillent pour un parrain local. Elles sont élevées dans le milieu. Petites, elles ne savent pas grand-chose du métier de leur père, si ce n'est qu'ils rendent des services aux gens, lesquels ont peur d'eux. Quand on leur demande ce qu'ils font, les hommes répondent de l'import-export. Et le mot mafia n'est jamais prononcé. On préfère dire la famille, et ça suffit. Et dans ce milieu, chacun est tenu au secret et à l'obéissance. On se jure fidélité, mais la trahison et la mort menacent toujours au gré de l'humeur des organisations rivales. Antonia et Sofia sont inséparables, jusqu'au jour où le père d'Antonia disparaît. Il avait laissé entendre qu'il voulait prendre ses distances. D'entrée, on suppose que Joey, le père de Sofia, y est pour quelque chose, d'autant qu'à la suite de cette disparition, il monte en grade. Une situation qui rend compliquée la relation d'amitié et de voisinage des deux filles et de leur famille. Antonia grandit sans père, sa mère se referme et la met en garde, elle ne doit plus adresser la parole à ceux qui ont les cheveux gominés en arrière. Mais comment vivre en dehors de la famille? Elle vous prend tout, mais elle veille à ce que vous ne manquiez de rien. Elles grandissent malgré tout ensemble, naviguant entre l'espoir de projets irréalistes et le désespoir d'une réalité très sombre, puis épousent des nouvelles recrues du parrain, alors qu'elles s'étaient jurées de ne pas fréquenter de membres de la famille, à force d'avoir vu leur mère mener une vie d'angoisse. Mais quand l'un des maris en a assez et décide de prendre son autonomie, les filles doivent prendre les choses en main, pour pas que le même drame se reproduise de génération en génération et éviter son exécution. Ce roman, c'est une exploration passionnante des coulisses de la mafia, avec une tension insidieuse, un suspense sans pathos, avec des héroïnes à la psychologie très fouillée qui doivent faire face à des choix complexes. C'est aussi un roman d'apprentissage et l'histoire d'une amitié très forte qui offre un grand plaisir de lecture. On va faire une petite pause musicale avec l'album Cracker Island, qui est le 8e album studio sorti cette année du groupe virtuel britannique Gorillaz, la formation iconique de Damon Albarn et de Jamie Elwett. Cet album interroge de nouveau le mariage entre l'humain et la machine, la place et le rôle de l'homme dans un monde de plus en plus déshumanisé. À travers ces 10 nouveaux titres, le groupe nous offre un bon condensé de pop avec une bonne dose de synthé et de funk, toujours à la croisée de l'électropop et du hip-hop dominé par le chant de Damon Albarn. Comme à leur habitude, Gorillaz s'entoure de nombreux guests de renom et c'est le génial musicien américain Thundercat qui ouvre le bal sur la chanson Cracker Island, véritable pépite pop et funky dans un réjouissant mélange électro-dansant de synthé et de guitare.
Un groupe, un album que vous pourrez retrouver du coup à la bibliothèque Montrichon prochainement d'ailleurs. On Cracker Island, it was born to the collective of the dawn. They were planting seeds at night to grow a made up paradise where the truth was not attuned. We'll be right back.
Vous êtes au rendez-vous culture des bibliothèques. Je vais vous parler d'un roman français qui est sorti cette année, de Philippe Claudel, Crépuscule. Dans une ville isolée d'un empire déclinant, qui n'est jamais nommé, où l'hiver semble infini, le curé du village est assassiné. Quelques jours après, la mosquée est profanée et des souillures sont peintes sur les maisons musulmanes. Dès lors, tout semble déraillé dans cette commune, où jusque-là, chrétiens et minorités de musulmans cohabitaient en harmonie. Le policier Nouriot et son adjoint, Barrage, tentent d'élucider le meurtre. Nouriot, c'est un homme gouverné par ses pulsions sexuelles, vaniteux et carriériste. Lui et les notables de la ville, sa hiérarchie, sont des êtres vils et vénaux, bien plus intéressés par le maintien de leurs privilèges que par l'intérêt de la population dont ils ont la charge. Ainsi, au cœur de l'intrigue, il y a la question de la vérité et de l'interprétation des faits au profit de la classe dirigeante. Le policier s'attache à découvrir la vérité. Mais quelle vérité? Celle qui lui fait miroiter sa hiérarchie pour classer l'affaire au plus vite? Il dit même « Je suis arrivé à la conclusion qu'est vrai ce qui est demandé et accepté par le plus grand nombre ». L'auteur montre qu'il y a différents concepts de vérité, la vérité efficiente et la vérité effective. Une vérité qui arrange tout le monde n'est-elle pas la véritable? Et pourquoi chercherait-on une vérité perturbante? Comme son enquête piétine et qu'un peuple mécontent a besoin d'un bouc émissaire, un ennemi commun pour souder le collectif, le policier a l'idée d'accuser la communauté musulmane de la ville. C'est édifiant de voir comment le pouvoir instrumentalise un fait tragique et le manipule pour mener à bien la politique voulue, en l'occurrence une politique d'exclusion. Et c'est à l'issue d'une scène de chasse autour d'un château grandiose, aussi terrifiante que grotesque, que le policier va se voir insuffler cette fabrication du mensonge qui arrange tout le monde. Et de là, le roman prend toute sa puissance et tout son sens. On a un récit âpre et sombre, semblable à un conte, une fable, qui décortique la nature humaine. Et comme il en a l'habitude, Philippe Claudel en a une vision pessimiste et la montre sans phare. Il manie une plume acerbe et délicieusement féroce. Son écriture est toute visuelle et somptueuse. C'est une œuvre particulièrement riche, d'une redoutable efficacité narrative qui résonne en nous d'une façon troublante. D'autant que de cette ambiance sinistre où les individus sont aussi noirs les uns que les autres, émergent heureusement deux personnages qui au départ semblent faibles, mais se révèlent les plus forts et qui illuminent l'histoire. Une évolution crépusculaire, d'où le titre, où les derniers rayons du soleil tenteraient désespérément d'empêcher l'obscurité de s'installer, ou inversement, la lumière du soleil levant fait disparaître l'obscurité. Aurore maintenant va nous parler de fantaisie avec le secret de l'ancien vœu d'Evie Reeves.
Eh oui, avec le secret de l'ancien vœu d'Evie Reeves, vous allez plonger au cœur d'un monde où la magie signifie tout. Dans le royaume d'Amphale, dirigé par les Malènes, chaque enfant à naître peut devenir le détenteur de grands dons. Il suffit pour cela que les futures mères se rendent au grand palais et fassent bénir leur enfant durant leur grossesse. Chaque don prend une forme unique. On peut donner des formes différentes aux objets, créer des émotions par le toucher, des illusions par la pensée, avoir une force hors du commun. Bref, tout est possible. Mais aucune mère ne saura quelle forme prendra le don de son enfant béni à l'avance. Si son don est grand, l'enfant peut être rappelé par le grand palais pour servir le royaume. Il n'y a pas de plus grand honneur, même si cela signifie qu'il quittera définitivement sa famille. Jamie ne se souvient de rien, pas même de son prénom, quand elle se réveille à l'auberge de la Petite Oie. Elle comprend vite que cela n'augure rien de bon, ni sa perte de mémoire, ni la marque qu'elle a sur son bras. Les gens l'appellent la profane, et il semble qu'elle soit recherchée. Mais le royaume entier recherche aussi quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'il nomme la Némésis. On dit que c'est une malène et qu'elle les aurait tous tués, qu'elle aurait tué toute sa famille, sauf un. Personne n'explique son geste et le royaume est laissé aux mains de l'armée pour le moment. Certains bénis y voient une faiblesse à exploiter et la rébellion est proche. Leurs dons, comme le traitement qu'ils ont pu subir suite à leur bénédiction, n'avaient rien d'une enfance dorée. Il est temps que la dynastie des Malènes paye pour de bon. Jamie se retrouve donc au croisement des événements et tente désespérément de trouver des indices sur sa vie. Son chemin va l'amener doucement vers cette némésis dont on ignore presque tout. Le puzzle se construit sous la plume d'Evie Reeves, très doucement, mais avec beaucoup de bienveillance, de rebondissements en complot, de non-dits en secret,
Et si on devine certaines choses, encore heureux, d'autres sont inattendues et nous surprennent. Le secret de l'ancien vœu d'Evy Reeves, une saga en 2 tomes, est le premier roman d'une autrice prometteuse qui ne fait pas de faux pas et qui nous embarque dans ce royaume mystérieux qu'est l'Omphal. Et vous, quel don auriez-vous souhaité avoir si vous aviez dû être béni?
Le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Quant à moi, je vais vous parler d'un roman qui s'appelle The Rose Code de Kate Quinn, que vous retrouverez à la bibliothèque Saint-Corneille. Donc on est en pleine Angleterre, qui se prépare à entrer en guerre contre l'Allemagne nazie, et 3 femmes très différentes répondent à l'appel d'un mystérieux domaine qui s'appelle donc Bletchley Park. C'est un site secret où les meilleurs cerveaux de Grande-Bretagne s'entraînent à casser les codes militaires allemands. Et grâce à leur amitié, ces femmes trouvent la force de survivre à la guerre, aux pertes, au chagrin d'amour et à la pression du secret. Mais la guerre, le deuil et une sombre trahison sépareront les 3 amies désormais ennemies. Jusqu'à ce qu'elles soient de nouveau réunies, quelques années plus tard, par une mystérieuse lettre codée. Un traître émerge des ombres de leur passé, forçant les 3 jeunes femmes à renouer leur vieille alliance pour casser un dernier code. C'est pour moi une palpitante histoire d'espionnage, mettant en scène 3 femmes fascinantes et un espion qu'elles doivent débusquer après la fin de la guerre. Destin de 3 femmes qui mènent une double vie, une vie ordinaire et des talents cachés qu'elles mettent au service d'une plus grande cause. Dès que les messages étaient alors décryptés, ils devaient les remettre aux personnes concernées, aux commandants, sur le champ de bataille de Montgomery, en Normandie. Et au tout début du roman, on apprend que l'une d'entre elles finit dans un hôpital psychiatrique. Tout au long du roman, on se demande qui, dans quelles circonstances, pourquoi. Et cela évoque toutes les problématiques pour ces personnes qui devaient casser des codes. Par rapport à leur personnalité, le lourd fardeau de vie et de mort qui pesait sur elles, mais aussi sur les populations à l'époque. Le roman évoque à plusieurs reprises Alan Turing, la machine Enigma, le prince Philippe, qui joue également un rôle déterminant dans l'intrigue. D'autant plus qu'il s'est investi dans une relation avec l'une des 3 protagonistes, avant de faire sa vie, comme on le sait, avec la reine Elisabeth II, aujourd'hui disparue. En effet, la narratrice ne fait pas que nous distraire, puisqu'elle nous instruit. Et c'est donc un savant mélange entre histoire avec un grand H et héroïne du quotidien, sur lequel je vous recommande de craquer. Donc je vais passer la parole à Anne.
Merci beaucoup, Amy. Alors moi, je vais vous parler des mauvaises épouses. C'est le dernier roman de Zoé Brisby. C'est une auteure qui, d'habitude, écrit des romans plutôt légers et surtout drôles. Et là, on est dans un registre plus grinçant et dans un contexte historique très bien documenté. Zoé Brisby nous transporte en 1952 dans le désert du Nevada, en banlieue de Las Vegas. On est à Artemisia Lane, le quartier de résidence des employés de la base scientifique militaire où avaient lieu les essais nucléaires. Ce cadre historique a son importance. D'une part, il est passionnant, et si vous avez vu cet été le film de Christopher Nolan, Oppenheimer, vous aurez ici un autre aperçu vraiment édifiant de ses expériences sur la bombe atomique. D'autre part, il confère au roman toute son atmosphère. C'est un décor qui constitue un véritable personnage du roman, au même titre que l'héroïne principale, Summer. Summer est la femme du chef scientifique de la base. C'est l'épouse parfaite, qui fait ce qu'on attend d'elle, une jolie poupée qui s'occupe bien de son mari, lui prépare de bons plats et organise les meilleurs barbecues atomiques. Car dans cette base, la bombe était perçue comme une attraction formidable. C'est toute la candeur de l'époque, en ce temps de guerre idéologique de la guerre froide, où la population américaine croyait que la bombe était l'avenir de l'homme. Les explosions étaient un spectacle. On organisait des pique-niques. Les employés de la base et leurs familles buvaient des cocktails, tout en sentant le souffle de l'explosion. Et on mettait juste des lunettes de soleil pour aller les observer. Summer se moque des essais nucléaires. Mais grâce à une amie qui, avec le recul de l'âge, se méfie des expérimentations militaires et a un doute sur leur toxicité, sur les conséquences des radiations, elle pressent peu à peu que quelque chose cloche dans ce cadre d'apparence paradisiaque, comme une prison dorée où ils vivent en vase clos. On a donc d'un côté une ambiance glamour à la Desperate Housewife et de l'autre une tension naissante qui devient permanente et oppressante. D'autant que tout change pour Summer lorsqu'arrive Charlie, une autre bombe, féminine et humaine cette fois-ci. C'est une voisine qui va bouleverser son existence. Charlie est totalement différente, sensuelle, autonome, rebelle. Elle détonne en revendiquant son indépendance. On va suivre la relation entre les deux femmes qui vont se révéler leurs secrets, tout en devant jongler avec les apparences, leur image et leurs désirs, et où celle qu'on croit la plus fragile est souvent la plus forte. L'auteur analyse de façon remarquable la dichotomie entre ce qu'on paraît et ce qu'on est. Et j'ai trouvé très intéressante la façon dont elle traite la violence psychologique et la question de l'émancipation des femmes, avec une écriture incisive, directe, qui fait qu'on ne voit pas du tout défiler les pages, on les dévore. Nous arrivons au terme de cette émission culturelle. Demain, samedi 23 septembre, vous aurez de nouveau une séance de Drink and Draw. Si vous avez envie de dessiner, créer et partager avec d'autres passionnés d'art et dessin, n'hésitez pas à venir à la Bibliothèque Saint-Corneille. Il y aura une séance à 10h, 14h30 et 17h. Bien sûr, c'est gratuit. Et demain aussi, un ciné-débat autour du film Marie Stuart, Reine d'Écosse, de Josie Rourke, à 17h30 dans la salle Michel Le Châtelier.
Et en présence de la reine du Muguet. Qui sera là pour présenter le film et qui restera pendant la projection.
Chouette. Et le mercredi 4 octobre, ce sera le tour du film La Môme d'Olivier Daillon à 14h au même endroit. Et notre prochain rendez-vous culture à la bibliothèque sera exceptionnellement un samedi à 11h. Ce sera le samedi 18 novembre à la bibliothèque Saint-Corneille. Pour notre émission, nous nous retrouvons le vendredi 24 novembre à 18h. À très bientôt et bon week-end.
Bon week-end.
Bon week-end.